6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Marguerite Caton, je vous salue.
Bonjour Guillaume et bonjour à tous.
Ce matin, vous allez donc nous parler du monde de l'édition.
Du tout petit monde de l'édition, de ce microcosme feutré parisien qui tient dans un mouchoir de poche entre Saint-Germain-des-Prés et Montparnasse, mais dont le poids économique et surtout politique n'est pas à négliger, d'autant plus que le nouveau mastodonte du secteur s'appelle Vincent Bolloré. Bonjour Françoise Geoffroy-Bernard.
Bonjour.
Vous êtes consultante associée du cabinet de conseil spécialisé dans le secteur du livre, le cabinet Axial. Merci d'être avec nous ce matin. Commençons par dresser un premier panorama de la filière. On observe d'abord un fourmillement d'acteurs.
Oui, absolument. On recense à peu près 10 000 maisons d'édition. Et alors, je me permets de dire d'emblée que l'édition, ce n'est pas qu'à Paris, puisque nous sommes, Axial, nous travaillons beaucoup avec l'ensemble des acteurs du livre, et en particulier avec les structures régionales du livre. Et en fait, il y a beaucoup d'acteurs en région, de plus en plus. Voilà. Et puis, je dirais que l'édition aussi, ce n'est pas que de la littérature générale, c'est bien d'autres secteurs. Voilà.
Bien sûr, mais les grands groupes qui structurent économiquement le secteur se comptent sur les doigts d'une main. En dehors des grands éditeurs scolaires ou spécialisés, il y a le groupe Média Participation avec son fleuron Le Seuil, Gallimard, enfin le groupe Madrigal, Editis et Hachette. Ces trois derniers acteurs, Françoise Geoffroy-Bernard, est-ce que vous pouvez évaluer leur poids respectif sur le marché? Qui domine?
Clairement Hachette Livre, hein, qui est donc le troisième groupe d'édition mondiale, qui a réalisé en 2023 près de 2 milliards, 8 de chiffre d'affaires, donc avec 200 marques. Et c'est un groupe très international aussi, ce qui le caractérise, à savoir qu'il ne réalise que 29% de leur chiffre d'affaires en France. Voilà, ce qui est aussi vraiment très 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 spécifique, tandis que Editis pèse à peu près 800 millions de chiffre d'affaires, avec aussi de très très belles marques, hein, une cinquantaine de marques, voilà, et un peu moins international. Et puis alors, donc Média Participation, vous l'avez dit, qui est le troisième en fait, hein, du secteur, en tout cas en 2022, à peu près, à peu près 722 millions. Et puis Madrigal, qui comprend à la fois Flammarion et Gallimard, donc 622 millions. Voilà, pour donner quelques chiffres 2022 ou 2023.
Vous parlez de marques, alors pour le grand public, ce qu'on voit, c'est des maisons d'édition, en fait. Mm-hmm. On les voit en librairie. Mm-hmm. Donc on comprend qu'en fait, ces maisons d'édition, Fayard, les éditions de Minuit, La Découverte, elles appartiennent toutes à de grands groupes. Pourquoi subsistent-elles? Est-ce que c'est des raisons de marketing? Parce qu'elles constituent des marques, justement, ou est-ce qu'elles ont une indépendance, une autonomie?
Alors, je suis spécialiste du marketing appliqué au livre. Alors, je vais vous dire, oui, ce sont des marques éditoriales, au même titre que certains auteurs, hein, sont devenus des sortes de marques. C'est évidemment toute une histoire, en fait. Donc, un catalogue qui s'est construit au fur et à mesure, effectivement, et une ligne éditoriale. Et évidemment, tout l'intérêt d'un groupe d'édition, c'est de capitaliser sur cette marque pour qui correspond en fait à un positionnement, justement pour parler marketing, sur le marché qui lui est propre. Et c'est tout l'intérêt effectivement d'avoir des marques souvent dans le même domaine éditorial mais avec des positionnements différents.
Au sein du groupe Hachette Livre, chez Fayard précisément, l'une des petites maisons d'édition, Mazarine, va devenir entièrement indépendante, a-t-il été annoncé. Elle va cependant bénéficier peut-être de la marque Fayard sous forme de licence. Qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue économique?
D'un point de vue économique, je ne saurais forcément vous dire. J'ai pas forcément compris que ça deviendrait indépendant. J'ai compris quand même, ça reste au sein du groupe Hachette. Donc, de toute façon, ça serait un label supplémentaire. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à éclaircir en ce moment par rapport à cette articulation entre Hachette et ses marques.
Vous avez parlé en fait de la cohérence éditoriale créée par un catalogue historique souvent. Est-ce que dans tous ces grands groupes et ces maisons d'édition, il y a vraiment, je reviens un peu à ma question, mais est-ce qu'il y a de l'autonomie sur ces catalogues?
Alors ce que j'observe, c'est vrai que chez Axial, on est en relation permanente avec, vous parlez de microcosme, on peut parler aussi d'écosystème, hein, c'est vraiment, on note toutes les nuances, les interdépendances, et c'est ce qui nous occupe. Effectivement, ce que j'ai remarqué, c'est que chez Hachette, il y a plutôt une sorte d'agrégation au fur et à mesure d'un certain nombre de maisons qui, jusqu'à qu'à présent, on a une relative autonomie. Et peut-être parce que le groupe, alors Vivendi, alors qui a changé pas mal de fois d'actionnaire et donc de nom, et donc désormais Editis, avec un nouvel actionnaire, il y a plus de choses transversales, en fait, qui existent. Par exemple, le portail, il n'y a pas de site internet par maison d'édition, il y a un portail commun qui s'appelle Lisez, où vous allez retrouver effectivement toutes les marques éditoriales. Il y a pas mal, en fait, de pôles, en fait, qui regroupent certaines marques. Voilà, il y a plus une structuration qui évolue évidemment à chaque nouvel actionnaire, mais il y a des fonctionnements un petit peu différents. Par exemple, on s'occupe aussi de recrutement. Il y a plus souvent des passages d'une maison à l'autre, me semble-t-il, jusqu'à présent chez Editis qu'il y en avait chez Hachette. Alors ça, c'est des choses qui peuvent effectivement changer. Ça, je ne sais pas.
L'automne a été la saison des grandes manœuvres dans le secteur sous l'œil de la Commission européenne. Vincent Bolloré a pu acquérir Hachette auprès d'Arnaud Lagardère. Pour éviter une trop grande concentration, il a dû se séparer d'Editis, qu'il a vendu à Daniel Kretinsky. Aujourd'hui, on voit que les deux champions de l'édition, Hachette et Editis, sont chacun intégrés à de grands groupes hégémoniques dans le secteur des médias. Le groupe Bolloré, qui contrôle, on le sait, Canal, Prisme Média, Europe 1, Paris Match, le JDD. Du côté de son rival Kretinsky, il y a Editis, donc, mais aussi Elle, Gala, Télé 7 jours, Marianne. Bref, l'édition et la presse ne sont plus deux entités séparées.
Alors, en fait, je me suis replongée dans les travaux que je recommande vivement, notamment Jean-Yves Mollier, hein, sur l'historique de la concentration dans le monde du livre. Hein, puis il y a aussi les travaux d'une économiste, une grande économiste de la culture comme Françoise Benhamou, ou les livres de André Chiffrin, qui analysent bien ce phénomène, en fait, de concentration horizontale. Ça existe depuis le milieu même du 19e siècle. Hein, racheter des maisons d'édition concurrentes, c'est pas terminé d'ailleurs, hein, parce qu'il y a de nouvelles maisons à vendre, puisque le groupe Human 6 est en vente depuis début février. Donc, on peut supposer que la concentration horizontale n'est pas terminée. La concentration verticale aussi, ça c'est ce qu'on observe depuis longtemps. Hein, racheter, alors, auparavant des imprimés, des papeteries, maintenant plutôt avoir sa propre structure de diffusion distribution et puis des librairies, comme par exemple le groupe Madrigal, qui a de très grandes librairies. Et ce qu'on voit effectivement, c'est cette qu'on peut appeler une concentration plutôt conglomérale, où on va effectivement retrouver des médias, en fait, presse, voire d'autres types de médias, avec un groupe d'édition. Et ça, en fait, dans l'historique, finalement, on peut se reporter, alors ça commence à devenir lointain, mais enfin, en 1980, quand Jean-Luc Lagardère a fait son OPA sur Hachette, il possédait déjà Paris Match, Elle, etc.
Ouais. Et la question dans ces conglomérats, ouais, évidemment, la diffusion d'une idéologie. On avait vu Kretinsky chez Marianne avec la une de Macron, enfin consacrée à Macron dans l'entre-deux tours de la présidentielle. Et là, on craint peut-être une idéologie d'extrême droite dans ce groupe Bolloré. On en reparlera peut-être. Merci Françoise Geoffroy-Bernard. Je rappelle que vous êtes consultante associée au cabinet Axial. Merci.